Ce mercredi matin, le 4e régiment de chasseurs de Gap s'est réveillé une nouvelle fois endeuillé. L'un de ses militaires, âgé de seulement 29 ans, est décédé au Mali. C'était mardi. Il s'agit du maréchal des logis Adrien Quélin, décédé accidentellement à Tombouctou. Il était engagé depuis juillet dernier dans l'opération Barkhane qui se poursuit dans la bande sahélo-saharienne. Ce matin, on va parler justement de cet accompagnement psychologique qui est mis en place au sein de l'armée. Et on en parle notamment avec notre invité, c'est le lieutenant-colonel Jérémy West. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes commandant second du 4e régiment de chasseurs à Gap, chef de corps par suppléance. Tout d'abord, quelle est votre fonction exacte? Quel est votre rôle?
Écoutez, je suis le commandant en second, c'est-à-dire que je suis l'adjoint du chef de corps, le colonel de Tannoir, actuellement déployé dans l'opération Barkhane et chef d'un groupement tactique désert. Donc, en tant qu'adjoint, j'ai plutôt le rôle de chef de la base arrière, c'est-à-dire celui qui reste au quartier et qui continue à faire tourner le régiment, à assumer, à organiser les missions qui sont confiées au régiment, tout en faisant le lien avec le théâtre, oui. Et en particulier quand il arrive un événement tel que cet accident pour Adrien Quélin, notamment en organisant la cellule de crise qui se tient, qui a maintenant été montée depuis 48 heures et qui permet essentiellement d'accompagner dignement la famille du maréchal des logis et de l'annonce de l'événement jusqu'aux obsèques et encore après.
On va revenir justement sur cet accompagnement qui est mis en place. On a pu en parler justement sur Alpe 1 avec Dominique Protin, qui est le père d'Alexandre Protin, décédé en 2019 au Mali. Tout d'abord, vous disiez faire tourner le régiment quand il y a l'annonce d'un décès sur le théâtre sahélo-saharien. Comment ça se passe du côté des militaires du 4e régiment de chasseurs? Comment vous appréhendez tout cela?
Eh bien, le chef de corps et son centre opération nous préviennent et préviennent la chaîne des autorités militaires, hein, qui prévient à son tour le régiment. On active une cellule de crise ici avec un ensemble de personnes qui sont habitués à cette cellule de crise, hein, pour lesquelles ils ont été formés. On prend en compte des médecins, on prend en compte un bureau environnement humain, donc un major ancien qui assure le lien avec les familles. Cette cellule, elle comprend également une assistante sociale, mais aussi des opérationnels qui permettent de continuer à assumer les missions et de voir l'impact qu'aura cet événement. Quel qu'il soit d'ailleurs, ça peut être un décès, mais ça peut être aussi des blessés, sur le régiment. Voilà. Et évidemment, cette cellule de crise, elle a pour but de cerner l'événement, de le comprendre, avant de se porter rapidement vers la famille pour réaliser l'annonce et dès l'annonce, l'accompagner à la fois de manière affective, puisqu'il y a une grande douleur forcément au moment de ce genre d'événement, que ce soit un blessé ou un décès, et puis l'accompagner aussi administrativement, plus techniquement, et au travers des différentes étapes qui marqueront les honneurs aux décédés.
Mais justement, Dominique Protin en parle très bien dans son livre de cet accompagnement. Quand deux militaires du régiment sont venus lui annoncer le décès de son fils, une question est revenue plusieurs fois dans la bouche de ces militaires auprès de la famille, hein, lors de l'annonce, c'est « Êtes-vous seul ?» C'est une question qu'on vous demande de poser à ce moment-là. Êtes-vous seul?
C'est peut-être la question qui lui a été posée à ce moment-là. Chaque annonce, je pense, est différente parce que justement, elle est personnalisée. On essaye de prendre un maximum d'informations avant de se rendre sur place, mais on n'est pas non plus dans l'intimité des familles. Donc cette phase d'annonce, elle est à la fois technique, mais elle est à la fois aussi faite d'intelligence de situation. Donc c'est très différent. C'est difficile de généraliser sur cette phase d'annonce. Ce qui est sûr, c'est que nous, on prend soin de cette phase parce qu'on sait que ça va être un choc terrible pour la famille et que on porte le message officiel de l'armée de terre, qui est le premier étant de présenter les condoléances de l'armée de terre et des armées, et puis de donner du sens aussi à ce sacrifice et à ce qui a été fait sur le théâtre, parce que c'est bien souvent opaque pour à ce moment-là pour les familles. Voilà, et on se soucie évidemment de l'état de santé, de la capacité de la famille à encaisser ce choc-là. Et en général, on a une petite équipe relais qui, juste après l'annonce, prend en compte, prend en charge la famille avec souvent une assistante sociale ou un médecin.
Justement, cette assistante sociale a joué un très grand rôle. Hein. Je parle toujours de Dominique Protin, mais c'est vrai qu'il l'a très bien expliqué, cette assistante sociale. Au début, il l'a vécue de manière très violente puisqu'elle était présente dans son intimité, dans l'intimité de sa douleur, cette intimité dont vous parliez justement. Mais après, cette assistante sociale a été un véritable soutien pour lui. D'ailleurs, il est toujours en contact avec elle.
Alors, cela ne m'étonne absolument pas. C'est vraiment un travail commun. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un travail du régiment. On a tout un tas de gens dont c'est le métier, qui sont peut-être un peu moins connus que les militaires combattants. Mais enfin, voilà, on a un service social des armées. On a un service médical des armées avec des gens qui sont un peu formés à ça et qui nous aident beaucoup là-dessus, même si la première responsabilité, c'est celle du régiment, hein, c'est d'accompagner la famille et puis de lui annoncer tout ça. Mais c'est un travail qui est essentiel et qui est très humain, qui est très humain et là aussi où il faut faire preuve de beaucoup d'empathie, de patience avec la famille et parfois encaisser des coups parce que la famille peut être en colère et c'est bien compréhensible. C'est un travail particulier, surtout dans les premiers moments. Et en fonction de ça, en fonction de ce travail, je pense que s'il est bien fait, sans vouloir être trop technique, si on est suffisamment humain, je pense que la famille le vit de manière moins douloureuse.
Vous parliez de ces métiers oubliés, hein, notamment de ce corps social qui est présent au sein de l'armée de terre. Le décès du maréchal des logis Adrien Quellin a mis aussi en exergue un autre corps de métier, c'est-à-dire toute la maintenance, la technique, la logistique, puisque lui était affecté au peloton en maintenance régimentaire à l'escadron de commandement et de logistique. Sur le théâtre de l'opération Barkhane, est-ce qu'on arrive à estimer le nombre de corps de métier qui sont présents? Parce qu'on parle beaucoup des militaires engagés sur le théâtre, sur la scène des combats, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont derrière et qui assurent cette logistique.
Oui, alors je pense que c'est... j'ai pas de chiffres à vous donner sur tous les métiers qui sont représentés pour une opération, mais alors, c'est énorme, parce que une opération, ça... Alors on imagine souvent le combattant de l'avant, que nous sommes, hein, au 4e régiment de chasseurs, régiment blindé et régiment de combat des forces terrestres. Donc on imagine souvent ce travail-là et on oublie que parmi ces combattants, il y a différentes spécialités. Il y a donc des cavaliers, puisque nous sommes, nous, héritiers de la cavalerie et donc un combat blindé, mais il y a aussi des gens qui travaillent sur la pollution et la dépollution de tous les axes. Il y a des gens qui travaillent sur la logistique. Il y a évidemment, comme Adrien, des mécaniciens dont c'est le métier, mais ce ne sont pas des mécaniciens comme on imagine, nous, le travail d'un mécanicien. D'ailleurs, Adrien était chef d'une équipe légère d'intervention, ce qui vous montre que c'est un mécanicien de l'avant, c'est un mécanicien combattant qui était au plus près des forces et dont le métier était d'assurer le fonctionnement de ces engins dans des conditions qui sont là aussi très différentes de celles qu'on peut connaître en métropole, hein, conditions désertiques, des conditions dures, hein, donc. On n'imagine pas tous les métiers qui sont représentés et cela va jusqu'au soutien, à la partie basique de soutien du combattant, c'est-à-dire alimentation, hébergement, et autres fonctions qui nous permettent au final d'assurer nos missions de combat sur le théâtre.
D'ailleurs, le ministère des Armées a même communiqué hier, hein, sur le fait que depuis juin dernier, un masseur-kinésithérapeute a été temporairement déployé sur la base aérienne projetée de Niamey. Il apporte notamment son soutien aux militaires qui sont soumis à de nombreuses contraintes. Hein, vous en avez parlé, il y a la chaleur, le poids des équipements, le port de charges lourdes, etc. Quel est le rôle du 4e régiment de chasseurs dans l'opération Barkhane?
Eh bien, alors, Déjà, on a à peu près 300 personnes hein, qui sont déployées à Barkhane sous les ordres de notre chef de corps, hein, le colonel de Tanwarn, qui lui-même commande un groupement tactique désert. Ces groupements, ils assurent des missions de sécurisation et des missions de contrôle de zone pour lutter contre les groupes armés djihadistes. Nous, on a une spécialité de cavalerie, donc globalement, on agit à partir de nos engins blindés avec les qualités de la cavalerie, c'est-à-dire une capacité au renseignement, bien entendu la protection que nous confèrent nos blindés, et puis une puissance de feu supérieure par rapport à certaines unités quand c'est nécessaire. Donc ce sont des missions de contrôle de zone, des missions d'escorte de convoi, des missions de sécurisation de certaines parties des villes ou villages sur place et des missions de défense aussi, défense d'emprise. Donc voilà, c'est un peu l'ensemble des missions qu'on assume. Alors un peu comme d'autres forces, mais avec notre spécificité de cavalier blindé.
Des militaires vont rentrer justement de cet OPEX, d'autres vont repartir par la suite.
Oui, alors effectivement, on est plutôt sur la fin de notre partie de l'opération puisque les gens sont engagés depuis juillet globalement pour le régiment et on est plutôt à envisager leur retour. Mais effectivement, d'autres unités prennent le relais régulièrement et pour nos opérations, sans trop de surprise, à peu près tous les 4 mois pour continuer les opérations sur place. Oui.
Et cette opération Barkhane, quand elle va se terminer? Le gouvernement semblait dire qu'il fallait l'arrêter.
Oui, alors vous savez, nous on est la partie armée de l'opération Barkhane, qui comprend déjà beaucoup d'autres volets que le volet armé. Effectivement, j'entends comme vous les réflexions sur l'opération Barkhane. Nous, pour l'instant, notre mission elle est inchangée et notre groupement tactique agit toujours en ce moment. Ce qu'il adviendra de l'opération Barkhane, eh bien, ce sera les décisions de nos chefs, selon les orientations du président de la République qui reste le chef des armées. Là-dessus, nous restons un petit peu sur notre mission, notre mission principale, hein, celle qui nous est confiée actuellement. Je pense que les soldats y pensent et ont certainement un ressenti sur tout ça, mais qu'ils se concentrent vraiment sur
leur
opération, sur leur mission actuellement. Voilà. Donc, quand est-ce que ce sera terminé? J'ai envie de dire quand on nous dira que la mission est terminée pour le 4e chasseur, le chef de corps rentrera et d'autres prendront le relais. Elle est en train de changer de forme, ça c'est certain, conformément à ce que le président avait annoncé. Mais je peux absolument pas répondre sur le quand.
Merci beaucoup, lieutenant-colonel Jérémy Ouez, d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1. Je rappelle que vous êtes le commandant second du 4e régiment de chasseurs de Gap et chef de corps par suppléance. Merci beaucoup.
Je vous remercie.